Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier et son tour du monde. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous avez parlé de l'histoire de l'Europe depuis 1914 de Yann Kershaw, dont le premier tome vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez esquissé un parallèle avec les années 20. À quelle période du passé est-ce qu'on peut comparer le moment qu'on traverse nous en Europe ?
Eh bien, les pessimistes vont évidemment chercher du côté des heures les plus sombres de notre histoire. Ils font des rapprochements avec les années 30 qui sont peu convaincantes. Car comme l'explique Marcel Gauchet, les nationalismes européens actuels sont de nature défensive, un peu rabougrie. Mais ils sont dépourvus de la prétention à l'exemplarité de leurs particularités, comme dit Gauchet, qui les a rendus si dangereux au XIXe siècle. Par bonheur, on ne voit pas non plus défiler des ligues en uniforme dans nos rues, et la démocratie n'est pas ouvertement combattue pour l'instant. Mais il y a d'autres moments de l'histoire européenne qui peuvent mieux servir à éclairer celle que nous traversons. Et mes partenaires du site WordCrunch en ont déniché deux qui me paraissent très intéressants. Pour le politologue portugais José Pedro Teixeira Fernandes, la bonne période de référence, c'est celle qui se situe à la jonction du XVIIIe siècle finissant et du début du XIXe. Une période de transition à bien des titres. Elle voit le passage des Lumières universalistes au particularisme romantique, d'une Europe où les élites communiquent en français à une autre où sont désormais valorisées les langues nationales dans l'esprit de Herder, comme substrat de l'esprit des peuples. Le romantisme, écrit-il, a constitué une révolte contre le cosmopolitisme aristocratique, car les Lumières, on l'oublie souvent, n'étaient guère démocratiques. Elles se méfiaient des peuples soupçonnés de manquer de lumière et d'être dominés par des superstitions. Aujourd'hui, l'anglais s'est substitué au français comme langue de l'élite, et celle-ci n'est plus cosmopolite, mais post-nationale. Mais elle est encore tentée par une forme de despotisme éclairé. Lorsqu'elle est de droite, cela prend la forme d'une adhésion enthousiaste à la mondialisation. À gauche, c'est l'idéologie multiculturaliste. Dans les deux cas, on aspire à une gouvernance mondiale confiée à une technocratie éclairée et soustraite à la censure des électorats. L'Union européenne illustrerait cette tendance à dessaisir les peuples de leur souveraineté. Tout comme nos philosophes des Lumières, cette élite, toute gonflée du sentiment de sa supériorité morale, prétend au monopole de la société décente. Elle vit, dit-il, en circuit fermé. Du coup, poursuit-il, les électorats se rebiffent. Ils envoient au Parlement des contingents d'eurodéputés résolus à saper l'institution elle-même. Et bien sûr, des leaders populistes surfent sur cette vague de droite comme Boris Johnson, de gauche comme Beppe Grillo. Les conséquences peuvent se révéler imprévisibles, conclut notre politologue portugais.
Bon, tout ça, Brice, est un tout petit peu déprimant. Vous n'avez pas trouvé des propositions susceptibles de ranimer un tout petit peu d'espoir ?
Eh bien, si, toujours sur WordCrunch, on trouve un texte signé par une journaliste allemande, Evelyn Roll, publié par la Süddeutsche Zeitung, plein d'un euro-enthousiasme assez touchant. Elle invite le lecteur à contempler tout simplement une carte du globe et à tenter d'y situer des pays comme, disons pour ne blesser personne, la Croatie ou la Belgique. Que sommes-nous par comparaison avec la Russie, les États-Unis d'Amérique ou le Brésil ? Des têtes d'épingle, dit-elle, des têtes d'épingle. Les grands problèmes que nous devons affronter, changement climatique, épidémie, flux financiers, terrorisme international, ne peuvent trouver le commencement d'une solution à nos échelles microscopiques. Bien sûr, on peut renoncer à figurer dans la grande histoire et espérer trouver un refuge à l'abri de sa toute petite patrie. Mais, écrit-elle, renoncer à la politique mondiale ne vous protégera pas contre ses conséquences. La majorité des Européens en sont conscients, poursuit Evelyn Roll. Or, cette majorité silencieuse risque de subir les conséquences d'une politique de démantèlement de ce qui a été patiemment construit pour renforcer l'Europe en l'unifiant. D'où sa proposition de constituer tout simplement un parti pro-européen, pan-européen. À l'heure des nouvelles technologies de la communication, des réseaux sociaux, du crowdfunding, pourquoi les pro-européens seraient-ils incapables de créer tout simplement leur propre formation politique ? Il faut éviter la répétition des erreurs de 1914, car pour cette éditorialiste allemande, telle est la référence historique du moment. Certes, nous n'allons pas nous faire la guerre entre Européens, mais cependant, nos dirigeants apparaissent comme ceux de cette époque, comme des somnambules. Elle fait bien sûr référence au livre de Christopher Clark qui montre comment le mécanisme de la guerre a échappé à tous les protagonistes. Sans projet directeur, nous, aujourd'hui, nous sommes le jouet d'événements qui nous dépassent. Enfin, World Crunch a traduit en anglais la tribune d'un journaliste des Échos, Nicolas Barré, mais vous pouvez parfaitement la lire en français. Lui aussi plaide pour que l'Union européenne se ressaisisse. Si nous ne voulons pas que les États-Unis nous dictent leurs réglementations et leurs normes, si nous refusons que les Chinois nous imposent leurs échanges commerciaux asymétriques, il faut relancer le projet européen. La Commission européenne vient d'infliger à Apple une amende de 13 milliards d'euros pour avoir négocié avec Irlande une quasi-dispense de l'impôt sur les sociétés. Aucun État européen isolé n'aurait pu punir ainsi le mastodonte américain.